les sons qui font l'histoire.
Une série de podcasts produites par le festival L'Histoire à venir de Toulouse, en partenariat avec le média d'information indépendant Blast. Réalisation Olivier Villepreux. Nous avons demandé à 6 invités de l'édition 2025 du festival de décrypter un enregistrement, un bruit, une voix, une musique qu'ils ont choisie comme illustration sonore de leur recherche. Épisode 3. Fabien Clouette, anthropologue, spécialiste des terrains maritimes et des relations entre humains et animaux. Et maintenant, écoutez bien.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un enregistrement de quelques notes de musique d'un morceau qui s'appelle The Entertainer de Scott Joplin. Mais cet enregistrement-là en particulier, il n'a rien à voir avec l'histoire du jazz. C'est la petite musique qui indique le démarrage du pinger DDD-03. Les pingers, c'est des répulsifs acoustiques. Donc, ce sont des outils qui sont très présents sur mon terrain, sur le terrain des interactions entre les humains et les cétacés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce petit signal sonore à l'allumage de ces appareils? Tout simplement parce que le répulsif, il émet des sons en haute fréquence, qui sont insupportables pour les animaux, mais qui constituent un paysage sonore que nous, humains, on est absolument incapables d'entendre. L'usage des pingers, il est largement associé aux situations de déprédation et de capture accidentelle, qui sont deux situations qui affectent le secteur de la pêche. En gros, on utilise ces répulsifs pour effaroucher des mammifères marins qui s'approchent trop des bateaux et qui risquent soit de dévorer une partie des prises des pêcheurs, soit de s'emmêler dans les filets et être ainsi capturés par des bateaux qui, évidemment, ne veulent pas les capturer. C'est la flottille des chalutiers pélagiques et des filayeurs qui sont très utilisatrices de ces pingers parce qu'elles ont un grand problème de capture accidentelle des petits cétacés, c'est-à-dire des dauphins qui s'emmêlent dans les filets et qui, en général, font des crises cardiaques en essayant de se démêler. Depuis 2016, pour le contexte, on a observé une augmentation radicale de ces captures accidentelles, qui sont observées grâce aux données d'échouage par un réseau de sciences participatives qui s'appelle le RNE, le Réseau National Échouage, et qui est piloté par une unité du CNRS qui s'appelle Pélagis. Et cette problématique, elle a mis du temps à être confrontée, malgré les chiffres qui étaient assez parlants, puisque les spécialistes relevaient des marques d'engins de pêche sur 70% environ des échouages, et jusqu'à plus de 90% pendant les pics hivernaux. Comme les décideurs peinaient un peu à se saisir de ce problème, s'est mise en place une judiciarisation avec l'initiative d'un consortium d'ONG en 2019, puis une procédure de la Commission européenne en 2020 contre la France et contre l'Espagne pour inaction. Et comme le problème n'était encore pas résolu après cette procédure, il y a un groupe plus restreint d'ONG françaises qui ont saisi le Conseil d'État début 2023. Et ça a mené alors à une décision de fermeture spatio-temporelle, c'est-à-dire que la pêche était interdite dans certaines zones à risque et pendant une période d'environ un mois. En 2024, en 2025, et ça sera reconduit en 2026. Et ces fermetures, elles ont montré une efficacité assez frappante, puisque les estimations d'individus capturés ont été divisées en moyenne par 4 par rapport à la moyenne depuis 2016. Mais du côté des instances de la pêche et du côté des décideurs, le pinger reste un outil privilégié, comme un peu un outil miracle. Et ces fermetures, elles sont même accusées de rompre une dynamique expérimentale autour de ces outils. En gros, on aurait fermé trop tôt, avant de savoir si les outils d'effarouchement fonctionnent. Et du côté scientifique, on répond que les pingers, ça fait un moment qu'on les utilise, sans trop de résultats, voire qu'on a des situations d'habituation des animaux au dispositif, sans parler du fait que le pinger, il est perçu comme aussi une forme de solution un peu techniciste à un problème qui, lui, est systémique. Il y a chez les scientifiques l'impression, en gros, d'une surenchère techniciste, quand en réalité, il faudrait changer des pratiques, des manières de faire. Alors concrètement, le pinger, qu'est-ce que c'est? C'est une balise qu'on accroche aux engins de pêche et qui émet un son. Et ce son, en plus d'être considéré comme inefficace par certains scientifiques, il peut aussi susciter de sérieux doutes au sujet du dérangement de la faune marine. À l'allumage d'un DDD-03 à bord d'un bateau, apparemment, les dauphins peuvent avoir des réactions très vives de fuite. C'est assez impressionnant, ce qui laisse à penser que le bruit, il est insupportable pour eux. Cela dit, c'est bien, on ne veut pas qu'ils viennent s'en mêler dans les filets, mais ça pose question aux scientifiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est que certains se sont emparés du problème et ont développé d'autres outils qui n'émettent pas des sons insupportables ou désagréables pour les animaux, mais qui investissent plutôt le chemin de la communication avec les animaux. Et c'est le cas, par exemple, d'un pinger développé par une équipe impliquant des chercheurs en écologie et qui imite le bruit des vocalisations de dauphins qui sont pris dans les filets. Et l'idée, c'est un peu de parler dauphin pour faire comprendre aux animaux que la zone, elle est risquée. C'est une initiative qui repose sur une modalité relationnelle différente des pingers qui sont purement répulsifs et qui trouve aussi sur mon terrain, sur mes autres terrains, des échos en dehors du monde de la pêche. Elle fait ainsi penser par exemple aux signaux qui sont émis par des pingers développés pour répondre aux problèmes d'interaction entre orques et navires de plaisance qu'on a pu qualifier d'attaque, avec des guillemets, le long de la côte du Portugal et surtout dans le détroit de Gibraltar. Sur ce terrain du détroit de Gibraltar, on a même des scientifiques et des entrepreneurs qui ont développé tout un tas d'outils à destination de la communauté de plaisanciers, avec des pingers qui tantôt essayaient de reproduire les vocalisations des orques, tantôt essayaient de reproduire les vocalisations d'autres animaux du détroit que les orques craignent, à savoir les globicéphales. Et parmi les scientifiques qui développent ces outils, certains ont fait des découvertes majeures, comme celle que certains mammifères marins s'essayaient à parler dans le langage d'autres espèces. Il y a un cas, par exemple, de dauphin commun qui a été observé en train de parler marsouin. Alors avec un accent, bien sûr, mais tout de même, cette observation, elle pose la question des frontières des espèces, de leur plasticité. Et puis, en retour, elle inspire les humains à faire de même. Est-ce que nous aussi, on pourrait pas parler aux mammifères marins ? Ça ouvre à une réflexion. Y aurait-il ici non seulement des pistes de résolution de conflits, de réparation de situations mortifères comme les captures accidentelles, mais aussi, pourquoi pas, un moyen de percevoir un message d'autres espèces, de ces espèces hautement charismatiques. Et on retrouve ici tout un imaginaire New Age qui a fait long feu. Toujours est-il qu'à bord des bateaux de particuliers, dans le détroit de Gibraltar, on retrouve toute une batterie d'expérimentations hors du laboratoire, de manière opératoire, dans des langages animaux que non seulement les humains n'ont pas encore compris, mais qui n'entendent pas, puisque tout ça se joue dans des fréquences qui sont trop hautes pour qu'on entende véritablement ce que les animaux et les machines se disent. En écho, on peut penser au projet SETI, qui est très médiatique, piloté par des chercheurs, entre autres au MIT, qui va accumuler des milliers d'heures de conversations entre cachalots dominicains pour ensuite, grâce au machine learning, rejouer en réponse produite par IA certaines expressions sur le modèle des programmes type ChatGPT. C'est-à-dire qu'au moment de rejouer certaines expressions pour discuter avec les cachalots, les scientifiques ne savent pas encore avec certitude ce que cela veut dire. Et c'est vertigineux. Une machine et un cachalot, en gros, devraient pouvoir discuter sans que les humains ne comprennent vraiment ce qu'ils se disent. De la même manière, quand on parle globicéphale à une orque, par l'intermédiaire d'un pinger, sans savoir ce qu'on dit ni comment cela peut être reçu, on risque quand même un peu de déstabiliser légèrement le milieu, surtout quand à la base, on vise à résoudre un problème déjà de conflit et de coprésence avec des animaux qu'on considérait un peu trop joueurs. Donc le pinger, il reste pour les scientifiques un outil d'apprenti sorcier. Puis l'expression, elle comporte toute cette charge symbolique. Le pinger, c'est la baguette magique marine avec la possibilité d'une merveilleuse rencontre, mais au prix d'éventuelles catastrophes, en fait. Et ce qui change pas, c'est ce désir de communication interespèce que je retrouve sur tous mes terrains, dans un paysage acoustique qu'on commence à peine à documenter et parfois à déchiffrer et qui se joue énormément dans les hautes fréquences, c'est-à-dire encore une fois dans un monde sonore inaudible aux humains.